Un, deux. Ah bon, on est en onde, il faut essayer de dire les bonnes choses. Merci beaucoup, Pasteur Réal. Un double merci. D'abord, le premier, c'est de m'avoir concédé la chair ce matin pour pouvoir parler au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La preuve, c'est que la chair, c'est pour tout le monde. Hein? C'est comme Pasteur Réal a dit, c'est la même chose pour la faculté aussi, c'est pour tout le monde. Même moi, j'ai été là. Mais ce qui est bien dans ce que Pasteur Réal a dit, c'est que pour la suite des docteurs qui vont venir, ça peut vous rassurer si ce matin je ne dis pas grand-chose, ou du moins si je ne corresponds pas nécessairement à vos attentes, pas moi, ce que je vais dire. Donc il y aura moyen avec M. Diabala, qui est mon professeur, donc déjà j'ai lui un responsable si j'ai fait quelques erreurs. Donc il va pouvoir les corriger en venant ici la semaine prochaine. Alors, sans plus tarder, alors le deuxième remerciement, c'est justement parce que Dieu nous fait grâce de pouvoir parler en son nom. Parce que ce n'est pas si évident lorsqu'on est ici. Ce n'est pas parce qu'on est différent lorsqu'on est ici, mais il y a quelque chose qui se passe. Merci, Pasteur Réal, parce que ça m'a permis de revisiter un petit peu et quelques livres de l'Ancien Testament, en particulier Genèse. Lorsque je lis un petit peu dans Hébreux chapitre 11, les versets, disons, j'ai lu les chapitres en complet, OK? Mais pour vous, j'avais juste pensé au premier verset, c'est-à-dire les 11. En même temps, je sais que nous n'avons pas, je ne vais pas dire ce qu'on n'a pas, les versets 39-40. C'est moi pour économiser mon temps. Je ne veux pas lire tout le texte avec vous ce matin parce que j'aimerais parcourir quelque chose d'autre. Alors, Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Verset 4, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, Dieu l'a déclaré juste en témoignant lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort, c'est-à-dire ses œuvres. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui était héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le conducteur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Versets 39 et 40. Dieu a approuvé tous ces gens, c'est-à-dire les autres que je n'ai pas cités, j'aurais pu dire après le 11e, etc. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Seigneur, nous implorons ton nom pour que tu nous bénisses ce matin. Ta parole est tellement claire. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Visite-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais voir environ 4 éléments avec vous et même 5. Mais ne vous en faites pas, ça va être très bref. On aura une pause vers midi. J'espère que vous avez votre collation avec vous. À midi, on va aller prendre la collation. On est dans une église bénie, on a même une cafétéria, donc ne vous en faites pas, on va passer au travers. Le premier, on va essayer de définir les concepts. En un deuxième temps, j'aimerais savoir avec vous, ce matin, j'ai écouté Sarah, elle a tellement employé les marqueurs de modèles, des marqueurs de trucs. Je me dis, moi, il faut que je trouve autre chose. En un second temps, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire vivre sa foi par la foi dans une société organisée et structurée. En un troisième lieu, j'aimerais bien qu'on regarde, mais c'est dans quel but vivre par la foi? Et enfin, mais avant la fin, vivre sa foi dans sa communauté, dans ce que les Grecs appellent l'Ecclésia. Le rassemblement de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, je vis ma foi ici? Et incidemment, on pourrait parler de la société en général. Comment le croyant peut-il vivre sa foi? Et enfin, nous tirerons quelques leçons en fait, dans notre vie de chaque jour. Allons-y vers les concepts. Les concepts seulement, les trois que je tenterai de définir, ça prendrait quasiment la journée. Parce qu'il y a tout, c'est on donne un synonyme, l'autre synonyme envoie un autre, et puis c'est long. Mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Vous allez voir, c'est facile. Si je me fie sur le dictionnaire français, en fait, il y en a plusieurs, le Larousse m'a dit, c'est juste, et être vivant ou bien en vie. C'est facile, hein? Je comprendrai qu'il ne faut pas toucher par ici, c'est beau. Donc, c'est facile, vivre. Des fois, on se demande, on se pose même pas la question. Je dis, mais je suis en vie. Mais est-ce que vivre veut dire la même chose pour tout le monde? Ça, c'en est une autre. Parce que pour certains, vivre, c'est, écoute, mais oui, je vis. Il fait soleil, il fait pas soleil, il neige pas, en tout cas, je vis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vis. Il n'y a pas grand-chose, on n'a pas besoin d'aller très loin pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, vivre. Mais il y en a qui vivent tout simplement, écoute, il y en a qui vivent au crochet des autres. Il y en a qui vivent par la foi. Il y en a qui vivent tout simplement, ils sont là. Une pierre vit, moi aussi je vis. Écoute, l'arbre vit, moi aussi je vis. Écoute, on vit. Ça c'est facile. On n'a pas besoin de perdre trop de temps là-dessus. Le deuxième, c'est la foi. La foi, là encore, il y a tout un monde. Mais on va rester seulement dans... On va essayer de faire, d'aller chercher trois éléments là-dedans. Le premier, c'est la foi que nous avons dans le boulanger du coin. Il prépare le pain, on va le chercher, on le mange. On n'a pas de problème, on ne sait pas si c'est intoxiqué ou non, on mange et puis jusqu'à présent, on pense qu'on est encore là, n'est-ce pas? On est en vie, n'est-ce pas? On prend notre voiture, on passe la clé, on démarre, on est là. C'est la foi, ça. Ça, c'est la foi au sens primaire. Mais la foi, par rapport à la Bible, j'essaierai de regarder dans l'Ancien Testament. Si vous cherchez l'expression, en fait, si vous cherchez la foi tout court dans l'Ancien Testament, vous allez dire, ah, mais ce n'est pas tellement important parce qu'il me semble que dans l'Ancien Testament, surtout dans nos versions françaises, des Bibles que nous avons, on ne mentionne pas ce mot en tant que tel, ou du moins, il ne revient pas souvent. Dans le Nouveau Testament, un peu plus. Mais dans l'Ancien Testament, par contre, les expressions ou bien les familles de mots en lien avec la foi sont une pléthore. C'est beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'expressions qui font allusion à la foi dans l'Ancien Testament. Un premier élément de foi, non mentionné, mais qui est mentionné dans la Bible, c'est l'introduction de la Bible même. Au commencement, Dieu créa, il parle. Donc, là-dessus, il y a des tonnes et des tonnes de livres qui ont été écrits. Là-dessus, il y a des tonnes et des tonnes de divisions qui ont été faites. Tout simplement parce que la plupart admettent que oui, Dieu, il créa le ciel et la terre. D'autres croient que non, parce qu'il y a une évolution. Le genre humain évolue. Mais la seule chose, depuis plusieurs années, je pense que il y a, semble-t-il, qu'il y a un arrêt quelque part. Parce que pourquoi moi je deviens pas chien? Donc, il y a un petit problème. Donc, c'est Dieu qui créa. J'admets par la foi que Dieu créa. On dit c'est au commencement. Il dit c'est le ciel et la terre, le texte dit. Donc, là-dessus, je me sens un petit peu plus en paix parce que la foi me ramène à cette réalité, même si je ne veux pas l'admettre, mais par la foi, j'accepte que Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième chose par rapport à la foi, toujours dans l'Ancien Testament, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la foi, on parle de croyance. On parle de faire confiance à. Vous savez, même dans les écrits juridiques aujourd'hui, en foi de quoi? Un jour, on va l'enlever. Ça veut donc dire, ce que j'écris, la vérité, ce qu'on dit, c'est j'ai fait confiance vraiment, j'ai confiance dans ce que j'ai écrit, je suis le témoin de ce que j'ai écrit. Un petit peu plus dans l'Ancien Testament toujours, c'est le psalmiste qui à plusieurs instants, à plusieurs situations, plusieurs reprises, il rappelle comment c'est important, il se confie en son Dieu. Et Dieu lui-même va dire au peuple Israël, plus d'une fois, écoute Israël. Ça veut donc dire, Israël, tu ne m'écoutes pas. Tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance dans ce que je te dis. Mais je te rappelle, c'est moi qui suis ton créateur. Par conséquent, tu ne pourras pas continuer ta vie, entre guillemets, ce que tu crois être vie, sans moi. Parce que je suis ton créateur. Et j'ai fait déjà mes preuves dans l'histoire. Tu n'es pas, mais en fait, je ne suis pas en train de faire une expérience avec toi, Israël. Écoute, parce que écoute, la terre sur laquelle tu marches, c'est moi qui le crée. Deuxièmement, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles en parallèle, Matthieu, Marc, Luc, la foi est plus associée à la guérison. Vous allez voir Jésus-Christ, « Va, ta foi t'a sauvé, ta foi à cause de ta foi t'es guéri, etc. » On a l'impression que le Seigneur Jésus met la responsabilité de la guérison de la personne sur sa foi. On n'a pas dit sur la personne, hein? Sur sa foi. Et l'apôtre Paul, lui, qui utilise une expression qui lui est très chère, et l'apôtre Jean l'utilise aussi, c'est l'expression, lorsque vous lisez Éphésiens, Philippiens et famille, souvent dans les écrits de Paul, il parle de l'union avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'union avec Christ en lien avec la foi. Il y a un terme, en fait, en grec, le mot foi en grec. En passant, il y en a plus que 500 des synonymes parce qu'il y a plus que 200 fois le mot foi en tant que tel. Fidélité, en fait, fidèle qui est un adjectif, il y en a environ, je crois, 67 versets qui en parlent dans le Nouveau Testament. Mais si on les additionne, ça me donne au-delà de 500 mot en lien avec la foi dans le Nouveau Testament. C'est clair. Le mot pistis, c'est pas nécessaire, mais la foi et le verbe. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le verbe. Le pistero, c'est pas nécessaire. Je veux pas les citer, même si on m'a présenté comme enseignant, c'est pas. Mais c'est surtout le préfixe qui vient avec. Vous allez comprendre. Ce préfixe-là, c'est un adjectif. Je ne vais pas vous perdre trop longtemps là-dessus, mais c'est juste pour nous faire comprendre lorsqu'on parle de la foi dans le Nouveau Testament. Ça veut donc dire, c'est sortir quelqu'un de lui-même pour le mettre en un autre. Et l'autre ici, c'est Jésus-Christ. Mettre dans. Comment un humain peut-il se sortir de lui-même? Vous pensez à un texte biblique dans le Nouveau Testament. Comment puis-je être né de nouveau si? Est-ce que j'ai besoin de retourner dans le sein de ma mère? C'est un petit peu ça l'idée. Sors de toi-même. Sors de ton paradigme habituel, de ton modèle, de ta façon de vivre et dépose tout ça en moi. Dans, mais sur mon compte. Et c'est ça le verbe, la nuance un petit peu en grec, nous dit. En d'autres termes, la foi, c'est me déposer en Christ. Je dépose toute ma façon, toute mon existence, tout ce qui fait mon charme, tout mon cérébral, mon intellect, tout, je le dépose en lui. Cela étant dit, le problème est résolu. Je n'ai rien à faire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vivre sa foi par la foi dans une société organisée et structurée. Quelques exemples de cette société structurée. Votre voiture tombe en panne, vous appelez quelqu'un, tout de suite, on vient vous dépanner. Si jamais on ne peut pas réparer la voiture là où elle est, on la traîne, on l'amène quelque part. En moins de 48 heures, vous l'aurez, est-ce vrai? Votre grille-pain tombe en panne ou bien ça ne fonctionne plus, vous le mettez à la poubelle ou au recyclage, vous allez acheter un autre. Vous êtes chez vous, on vous appelle, on vous dit, écoutez, monsieur police, on vous donne 10 000 $ mais ils ajoutent toujours à la fin comme crédit. Mais c'est intéressant. On voit un nez de poule, on dit, oh, mais mon Dieu, Montréal, franchement, c'est désagréable, c'est pas normal. C'est intéressant comme société. On est interconnecté. Je parle seulement pour le Québec, d'accord? Et comme société aussi, c'est comme on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour qu'on résolve nos problèmes. Et ça, c'est quand même très, très bien aussi. C'est bon pour nous. Un autre élément, toujours comme société organisée, c'est que peu importe le problème, il y a une solution. Et ça, on ne l'a pas dans toutes les sociétés du monde. L'avantage qu'on a aussi, c'est que notre pays fait partie des CA du monde entier. Les G7, ça vous dit quelque chose? Le groupe des 7, c'est-à-dire les superstars des nations. Parce qu'on est dans le Canada, le Québec, donc on fait partie des grandes décisions mondiales. On se réunit, les 7 grands pays, ils prennent des décisions. Et ça, c'est sécurisant pour moi comme citoyen de cette société-là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu peux être malade et puis tu vas voir un médecin. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus intéressant, on devient vraiment patient. Mais il y a 30 ans, c'était même pas patient. C'était, on passe à l'hôpital, on passe à la clinique. OK, monsieur Paul, ça va? Oui, ça va, écoute. OK, le médecin nous donne quelques histoires aussi pour nous calmer. Après ça, vous pouvez rentrer chez vous. J'avais même pas besoin d'avoir docteur Côté comme contact. Aujourd'hui, on est plus patient. OK, mais c'est intéressant toujours comme société, n'est-ce pas? Vivre par la foi dans cette société-là, c'est quelque chose, hein? L'autre chose là-dedans, c'est que tout est organisé, tout est planifié. On sait dans les 10 prochaines années combien d'enseignants qu'on veut avoir, combien de pasteurs qu'on va avoir. On sait combien de médecins qu'on va avoir. Tout est planifié. On peut, à la rigueur, dans le monde médiatique, préparer déjà ce quel premier ministre, quel genre qu'on veut avoir. Ça, c'est de l'organisation. Il y en a pour tous les goûts. Le mot le plus à la mode aujourd'hui, c'est le mot expert. T'es expert en quelque chose. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un. Il croit tellement en lui. Il se croit être un spécialiste en péché. Et je ne vous conte pas d'histoire. Le gars m'a dit, mais écoutez, moi, j'ai fait tellement de péchés là. Je fais tellement de crimes. J'ai fait tout le Canada dans le crime. Et puis il m'a dit, Félix, écoute. Moi, j'ai déjà entendu la parole, je sais. Donc, pour moi, ça va être très, très difficile pour Dieu de me sauver. C'est pour cette raison, moi, je veux. Il m'a fait comme ça, c'est pour cette raison, moi. Parce qu'il croit tellement, il est tellement perdu d'après lui. Il me dit, quand je vais arriver au ciel, là, Dieu va me dire ce qu'il va faire avec moi et puis je me résigne, là, ça va. Donc, par déduction, on pourrait dire que c'est un spécialiste en péché. Parce qu'il veut, il croit tellement dans son monde-là qu'il peut aider Dieu. Il se prononce même sur son verdict éternel quasiment. Mais c'est de l'affront. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est une société organisée. Donc il prévoit qu'est-ce que Dieu va faire avec lui. Mais il ne s'organise pas en conséquence. La foi, finalement, c'est quoi? Lorsqu'on vit dans une société aussi bien organisée, quand on a le chapitre des droits, que je n'aborde même pas, droits individuels, droits collectifs, droits des animaux, droits des patients, droits des médecins, droits des ingénieurs. Écoute, au Québec, on a plus que 5000 associations, organisations. On a quasiment... Les psychologues pour les animaux, mais c'est important. On a des psychologues pour les associations. À l'intérieur de ces associations, on a des psychologues pour les individus. Mais si, vive l'organisation. Je préfère vivre là-dedans que vivre dans certaines sociétés où si... Et puis, je suis là matin ou le jour, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est bien. C'est d'un endroit où il fait bon vivre. C'est quasiment un paradis sur terre. Tout est correct. On a nos corps qui sont balisés, c'est-à-dire légalisés. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. C'est bien ça. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon esprit parce qu'il y a un système qui pense pour mon esprit. C'est quand même extraordinaire. Dans notre société, on ne cohabite pas avec problème. Qu'est-ce que ça veut dire, problème? C'est des choses qu'on trouve dans les livres de mathématiques. Et même là encore, s'il y en a, il ne faut pas en mettre trop pour ne pas traumatiser les enfants. Il ne faut pas demander à l'élève de reprendre. Sinon, ses parents vont t'appeler pour dire, oh, monsieur, qu'est-ce qu'il y a là? Mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. Vous allez le traumatiser? Vous allez le détruire? Vous êtes là pour construire, vous êtes là, on vous fait tout de la nomenclature, de la pédagogie. Vous n'avez pas le droit. Parce que l'enfant a un droit, l'élève a un droit, l'enseignant a un droit, le futur enseignant a un droit, tout. Encadré. Et puis c'est le droit. S'il y a un problème, il ne faut pas le répéter, il ne faut pas dire que tu as un problème. Parce que ça n'existe pas avec nous. On utilise de préférence des euphémismes, c'est-à-dire on adoucit les termes. Dis-moi que je suis beau dans cette société-là. Dis-moi que je suis bien. Faites-moi plaisir, etc. Est-ce vrai que tout est si beau et si parfait? Il ne faut pas parler de la mort. Ça nous attriste. Ce n'est pas parce qu'on commande des études pour prendre des décisions, que la décision est nécessairement bonne. J'ai un grand respect pour les recherches. Mais sauf que dans la logique de la Bible, la logique de la parole de Dieu, on ne peut pas suivre tout le temps la logique, parce que la foi, cette fois-ci c'est d'après moi, la foi a une dimension rationnelle et irrationnelle. Je m'explique. Rationnel, lorsqu'on est déjà en Christ. Ratio, raison, du latin. On a un raisonnement. Parce que quand tu connais Christ, même lorsque ça fait 2 jours, ça fait 50 ans, tu dis, waouh, où étais-je depuis ce temps-là? Mais lorsqu'on ne le connaît pas, on peut faire n'importe quoi avec. On peut même le bouder, on peut même le mesurer, on peut même l'évaluer, parce qu'on ne le sait pas. Lorsqu'on ne sait pas, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais automatiquement qu'on sait quelque chose, on parle moins, parce qu'on dit Mais lorsqu'on ne sait pas, c'est pas grave. Je peux dire ce que je veux. Je peux parler de Dieu comme je veux. De toute façon, je ne le connais pas, je ne crois pas en lui. Même si je crois pas en lui, je parle plus souvent de lui que les gens qui le connaissent, qui croient en lui. Ce n'est pas grave. Je me prononce. Je suis libre. Mon droit est garanti. Mais l'aide médicale à mourir, parce qu'on nous préserve, on nous aime, on m'aide à mourir. C'est très poétique. Pourtant, le premier travail d'un médecin, c'était de quasiment d'aider le patient, si j'ai tort, le docteur Côté peut m'aider, à abréger ses douleurs. Quand je vais chez le médecin, c'est parce que ça va mal, ou bien je pense que ça va mal, parfois c'est juste dans ma tête, mais il va m'aider pareil. Il est là pour me guider, pour me donner quasiment l'espoir. On se comprend sur le plan médical. Comme société, on ne parle pas d'avortement, c'est un IVC. Mais ça sonne beau, hein? Interruption volontaire de grossesse. IVG, excuse-moi, c'est un IVG. Ce n'est pas de l'avortement, ça. Mais quand je compte un petit peu les données disponibles, de 2007 à 2015, si on dit en moyenne qu'il y a 24 000 à 27 000 avortement par année. 24 à 27 000. Ça me donne de 2007 à 2015, je peux me tromper parce que je ne suis pas mathématicien, Sabin, si tu es là, tu peux toujours compter ça. Ça nous donne 234 411 avortements pour notre société, juste le Québec là. 234 411. Les gars de troisième secondaire et plus, vous voulez faire le pourcentage sur le nombre d'habitants qu'on a au Québec à l'année actuelle, en 2017. Donc si en 9 ans, est-ce que c'est 9, 2007 à 2017, à 2015, ça donne environ 9, clair. C'est quand même quelque chose. En 2016, il y a eu 86 400 naissances. Il y a eu 63 600 décès. Toujours le Québec, on a enregistré 22 000 mariages. Sur les 22 000, il y a un tiers qui s'est soldé par un divorce. Mais la société, quand même, c'est une bonne société. Taux de suicide par 100 000 habitants. 6 à 20 selon le sexe. Et du côté des gars, je ne sais pas pourquoi, que ce soit du côté des filles ou des femmes, surtout les hommes de 25 ans et plus, 25 à 44 ans, le taux est beaucoup plus élevé. Des exemples comme ça, on pourrait en citer une tonne. Des exemples aussi positifs, on pourrait en citer une tonne. Mais est-ce que ça va si bien comme croyant en Jésus-Christ? Quand je dis Vivre par la foi dans une société aussi bien structurée, comment je peux vivre ma foi? Et l'autre point que je pourrais prendre en exemple, qui est très actuel, c'est cette question de genre. Les enfants de mes enfants, s'ils ne restent pas attachés à la parole de Dieu, la prochaine case sur le formulaire, ça va être masculin, féminin, genre, neutre. Qu'est-ce que ça veut dire, genre neutre? Toujours au nom de la loi. Comment puis-je vivre la foi dans un tel contexte? On comprend alors la foi est évacuée de cette équation qu'on nous présente. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire puisque Dieu semble, en fait, j'enlève ce verbe, Dieu nous demande tout simplement d'aller à l'opposé. Que ça aille bien, que tout est bien organisé ou non, mais toi, tu ne vas pas t'organiser ta vie en fonction d'eux, mais tu vas prendre ta vie, tu vas la déposer en moi. Il suffit de considérer le texte qu'on a lu en introduction pour comprendre un petit peu ce que l'auteur a voulu faire. Et en passant, le livre des Hébreux, c'est l'un des livres du Nouveau Testament qui est le plus long avec quelques écrits de Paul. Cette lettre-là, pour commencer, ça commence mal pour cette lettre. On ne connaît pas l'auteur. Jusqu'à présent, on est dans un grand débat théologique pour savoir ce qui a la paternité de cette lettre. Deuxième chose, on ne sait pas exactement ses destinataires. Par contre, certains auteurs pensent que elle a été adressée aux chrétiens, les nouveaux chrétiens juifs. On laisse le judaïsme, on vient dans le christianisme. Mais en passant, c'est beau aujourd'hui de le dire. Mais vous savez, du premier siècle, dans le début de l'Église, comment elle a été persécutée. J'ai bien dit au début du premier siècle. Et les persécuteurs n'étaient pas seulement des gens du dehors. En majorité, c'était des gens dans l'Église. Et ce n'est pas juste une petite persécution. Oh non, pourquoi tu parles comme ça, toi? J'aime pas ta coupe de cheveux. Pourquoi tu n'étais pas venu au camp? C'était des choses plus sérieuses. Exécution, sommaire, martyr. Quoi encore? Torture. Ça, c'est au premier siècle. Au deuxième siècle, la même chose. Ils avaient un accalmie un petit temps, mais la persécution a toujours été là. Au cinquième siècle, ils ont pris une pause parce que ça a pris une autre tournure. C'était plus officialisé au cinquième siècle. Moi, ce que j'aime, c'est lorsque la parole de Dieu nous dit que, écoute, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce qu'il a fait, c'est comme, je vais refaire l'histoire avec vous. Savez-vous pourquoi? Parce que devant vous, vous voyez d'autres chrétiens qu'on a éliminés. D'autres chrétiens à qui on a demandé de rejeter le nom de Dieu, abdiquer. Dites que Dieu n'est pas Dieu. Ne le suivez pas et comme ça vous allez être en vie. Là, l'auteur a dû écrire cette lettre-là pour les encourager à tenir ferme en faisant quasiment un cours théologique qui s'échelonne sur plusieurs années en un livre, en une petite lettre. Il a repris avec eux. Voilà le béaba. Voilà ce que Jésus-Christ a commencé. Voilà ce qu'il a fait. Voilà dans l'histoire, remontant à Genèse, voilà ce que Dieu a fait lui dans le chapitre 11, qui est un résumé ou un condensé théologique de tout l'Ancien Testament. Au commencement, Dieu créa, voilà leur histoire. Voilà l'histoire de Noé, voilà l'histoire d'Abraham, voilà l'histoire d'Isaac, etc., etc. Et arrivé à Abraham, moi j'ai ri, j'étais tellement content de revisiter le livre de la Genèse et de me positionner pour dire c'est Dieu qui mène l'histoire. Peu importe ce qu'on voit, peu importe la tournure que prennent les événements, ne nous en faisons pas parce que Dieu tient le contrôle. Dieu est là. On a éliminé, on a torturé, on a, c'est quoi, les martyrs. Quand on les lit aujourd'hui, on a l'impression, mais c'est wow, wow, La foi n'est pas sensationnelle. La foi n'est pas conventionnelle. 2 + 2 = 4, c'est par convention. Parce que demain matin, ils peuvent avoir une autre équipe de chercheurs pour nous dire non, 2 + 2 ne donne pas 4, ça donne 22. Et on va nous apprendre comment les accepter que ça donne 22. Racine carrée de 100, ça va donner 10. Pour le moment, par convention, on le répète, on le croit. Quand les gens nous demandent, mais si vous croyez, faites la démonstration. Mais quand je dis racine carrée de 100, c'est 10, mais je me base sur quoi? Pourquoi je l'accepte? En vertu de quoi je l'accepte? Parce qu'on me dit c'est des faits. C'est factuel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dû faire un exercice très métagogique, très universitaire. Hein? Donné par donné, fait par des faits. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment lui, il a réagi, il a agi. Voilà comment Sarah, lui, en apprenant d'abord Abraham, en apprenant cette nouvelle, il dit, mais moi, je suis tellement vieux. Sarah, elle a entendu la conversation, elle rit. Il y a certaines choses, et il vaut mieux qu'on en rit. Elle rit en termes d'expérience en passant. Écoute là, généralement, comment ça se passe? C'est dans la jeunesse qu'on a un enfant. Mais là, tu as dépassé le calendrier, ça fait longtemps. Tu as laissé le chiffre 30, 35, 40, 45, 50, 55, etc. Deuxième chose, pourtant il y a une promesse. C'est ça qui est difficile dans la vie chrétienne des fois. Rationnel et irrationnel. Dieu me promet, Dieu me dit que ça va arriver. J'attends, mais en attente. Vous savez, dans le cas d'Abraham, il a dû attendre 25 ans. C'est l'équivalent d'une génération, parce qu'une génération, c'est environ 30 ans. C'est beaucoup pour nous aujourd'hui. 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans pour Christ. Expliquez-moi ça. Devant ce monstre qu'on va dire, l'Éternel nous demande d'aller à l'encontre, disons à l'opposé. Il y a 2 choses, et même 3. Pour nous, comme chrétiens, ça nous présente un défi dans la mesure où l'on choisit de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Le premier défi, c'est que le monde a des exigences qui nécessitent des efforts inhumains. Plus on en fait, plus il nous en demande d'autres. Tu as l'impression que tu ne réponds jamais aux normes parce que la grille n'est pas définie. Tu fais ça aujourd'hui, on te dit très bien, demain on te dit, mais là, tu aurais pu. Si j'étais à ta place, je ferais. Ça, c'est pour les bons pédagogues. Mais les autres, ils vous disent, mais vous auriez dû. Ou bien on dit, mais ce serait bien 2. Ça veut dire augmenter la note. Pousse-moi. Donne-moi plus. Plus on en fait, plus on nous en demande. Ce sont des critères indéfinis, imprécis. Il n'y a pas de norme. C'est ça l'homme. Le fardeau est toujours sur nous. Et deuxième, on rate à la fois le présent et l'avenir. Qu'est-ce que ça me donne? Je ne pourrai jamais atteindre les critères que les hommes demandent. Donc, j'ai peur mon temps à les suivre comme des moutons de panurge. Deuxième chose, je vais rater mon univers céleste, mon rendez-vous divin, ce pourquoi je suis créé. Donc, sur toute la ligne, je perds. Même si je fais semblant d'avoir une vie à l'aise, une vie meilleure, mais l'autre portée, je ne la connais pas. La suite, je ne la connais pas du tout, je ne la connaîtrai jamais. Ce que Dieu a pour moi en réserve, je ne le connaîtrai pas moi. Je ne sais pas son plan pour moi pour les 20 prochaines années. Je peux toujours, moi, comme individu, j'aime avoir un plan B. Je veux même avoir un plan C des fois. Mais même mon plan B, je ne peux pas l'atteindre. Parce que c'est Christ qui tient la suite des choses. Dans cette même vérité, dans cette même veine, nous pouvons voir 5 obstacles à la foi chrétienne, rapidement. C'est la réussite. Nous nous laissons gagner par nos soucis. Nous voulons nous améliorer à tout prix. Mais moi, je veux quand même, vous savez, c'est que nous voulons améliorer la vie de nos enfants. Ça, c'est moi, pas vous. J'aimerais ça que mes enfants soient. J'aimerais ça qu'ils aient la foi attributive. Dis-moi que je suis bon. Dis-moi que je suis beau. Dis-moi que je suis parfait. Je veux entendre ça. On pense qu'il est tantôt, que notre Dieu est tantôt trop lent, tantôt trop vite. Pourquoi il fait ça si c'était moi, écoute Dieu? Exode 14, 14, on l'oublie. L'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. La peur, deuxième obstacle, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que quand on veut plaire, on ne sait pas la dimension de plaisir que je dois atteindre pour que cette personne-là soit contente. Donc, c'est toujours le fardeau. Non seulement je veux me plaire, et puis je veux que les gens disent, ah, tu sais, c'est lui, c'est à lui. Ça, c'est les hommes. Matthieu 11, 28, on a oublié, déposez sur lui tous vos fardeaux. La peur de l'avenir. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, c'est-à-dire je représente l'autorité sur toi, sur toute ton existence, ton cérébral inclus. Ésaïe 41, 10. Dieu par la bouche de Salomon nous dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. Proverbe 3, verset 5, 6. Vous savez pourquoi? Parce que notre vie, elle est dérangée par le péché. Depuis Genèse 3, on ne voit pas de la même manière. On n'entend pas de la même manière. On ne croit plus de la même manière. On a décidé de refaire la grille parce qu'on n'entend plus l'original. Dieu, l'auteur de notre foi. Troisième obstacle à notre foi, ou du moins ce que j'appelle les éléments agresseurs de notre foi au quotidien, c'est le temps. On croit qu'on n'en a pas, ou bien on croit qu'on en a trop. Finalement, on n'en fait rien. On met tout pour nous. On s'organise en vertu de nous. Je dis à mes enfants, moi, on m'a élevé pour vous avoir. Mais j'aurais tellement aimé vous voir, vous adonner à Christ. C'est ça qui est essentiel. Vis ta vie comme citoyen céleste. Choisis ton plan de carrière en vertu de ce que Dieu attend de toi. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin du monde, il aura encore, et Dieu aura encore besoin du monde. Dieu n'aura pas besoin de savoir quand je vais chez toi, j'ai 5 chambres pour me coucher. Mais il aura besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse. Jeune homme, étudie, jeune fille, prépare-toi, étudie. Gaspillons pas notre temps. On a besoin encore dans la francophonie des gens pour traduire des textes pour les autres. On a encore besoin dans la francophonie des gens pour diriger les églises. Le temps, utilise-le à bon escient. Le temps qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura pas demain. Dieu nous donne un temps, le temps d'abondance, le temps de la paix pour parler de lui aujourd'hui publiquement. Demain, rien ne nous garantit qu'on va l'avoir. Ou du moins, si on va l'avoir, ça va être très balisé. Ça prend une erreur sur l'échiquier politique pour se rendre compte qu'on a le contrôle de rien. Lorsque le gouverneur de la Banque du Canada a décidé d'augmenter le taux directeur, il ne m'a pas consulté. Je ne sais pas pour vous, moi, personne ne m'a appelé à la maison. On prend les décisions et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait? On les subit. Quatrième obstacle, le relativisme. Tout est correct. Tout le monde le fait, pourquoi tu le fais pas? Tu es correct, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. J'ai ma grille, tu as ta grille, on est correct. Donc il n'y a pas de normes, même si on nous dit qu'on est très normalisé. Cinquième obstacle, c'est l'égocentrisme. Tu as raison, mais moi. Oui, mais moi. Mon prénom, c'est oui. Oui, mais moi, c'est mon nom de famille. Oui, mais moi. Ah, mais écoute, l'Église, c'est un discours passéiste, la foi. Face à ces obstacles, quoi faire? Un, il faut se laisser pétrir par l'Esprit de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentations 3, 26. Le psalmiste dit, c'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, il agira. Il a de l'expérience, lui. En d'autres termes, on n'est pas invité à suivre les gens. On n'est pas invité à suivre le monde. Le monde est construit sur du vide. C'est pas le roc tel que décrit par la foi dans le Nouveau Testament et l'Ancien aussi, c'est sur le roc solide. Lequel roc? C'est même pas ton travail d'avoir la foi. C'est Christ qui a c'est Dieu qui a propulsé en nous quelque chose, qui a pris, j'allais dire en otage, mais c'est négatif, qui a mobilisé tout notre esprit, tout notre subconscient. On ne peut même pas l'expliquer la dimension de la foi. Et cela nous amène très simplement à l'idée que, écoute, on est là, et puis toi tu as la foi, l'autre il est là, il n'a pas la foi, tu expliques ça comment? Ça c'est illogique, Félix. Mais oui, c'est très illogique, c'est Dieu qui décide. Il déclare que je suis juste. Et la foi dont je parle ici, c'est dans cette perspective salvifique, le salut. C'est Dieu qui intervient de manière miraculeuse. Lorsqu'il y a un problème dans notre société, et ça m'amène à l'autre point, comment vivre ma vie chrétienne dans une société aussi bien structurée? Tout seul, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les moyens nécessaires pour répondre aux exigences ou aux désidératas de cette société-là. Je ne suis pas capable, parce que même moi, je me fais organiser. Je suis dans un cadre. Mais lorsque c'est Dieu qui détermine les balises, il sait exactement où il est rendu avec chaque personne dans sa compréhension des choses. Il l'apprend, il la traite, il résout les problèmes avec cette personne-là. Et la preuve, en conséquence, c'est que notre Dieu, il est tellement sage, organisé, structuré, lui. Il y a certaines choses dans notre société, lorsqu'il y a un problème, on va faire appel aux grands, c'est-à-dire les gens mandatés pour. Dépendamment de la gravité du problème, on demande soit le premier ministre, on demande soit le député, on commence la hiérarchie. Si lui, il vient sur les lieux, ça ne correspond pas à nos attentes. Et dépendamment de la gravité, on demande à ce que le premier ministre se déplace en personne pour qu'il vienne. Ça veut dire quoi? La situation est aussi grave. On ne peut pas la laisser comme ça. Parce que si on va déplacer juste les représentants, les mandatés, écoute là, c'est la palmenterie, le verboum. Vous connaissez le chant? Parler. Mais quand le premier ministre se déplace, il ne peut pas juste se déplacer. Il vient avec une solution. Ah, il y a une annonce qui va être faite. Et puis le peuple. Parfois, il vient, même si c'est après 10 ans, le fait qu'il soit venu, le peuple se calme un petit peu. Parallèle. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas mandaté ni un prophète, ni un roi, ni un apôtre. Il aurait pu le faire parce qu'il l'a fait. Il a mandaté ce qu'il a de plus cher, de plus noble, de plus inestimable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un prix sur cette personne-là. J'ai laissé ma royauté, j'ai laissé mon monde, pour utiliser un mot nouveau, ça fait plus que 20 ans, j'ai laissé mon siège, mon paradigme, j'ai laissé ma royauté dans tout ce qu'elle comprend. Je prends cette forme humaine, évaluez-moi ça. Demandez comment ça coûte. Comment peut-on l'expliquer? Chaque humain sur la terre est tellement important pour Dieu. Il est venu, il s'est fait égal. à cette personne-là. Et c'est ça la foi. C'est ce que je vous donne. C'est par le moyen de la foi que la grâce s'obtient. Et cette foi, ce n'est pas en vertu de quelque chose qu'on va faire pour l'avoir. C'est parce que Dieu, lui, il est venu jusqu'à toi. À chaque fois que tu as le goût de tout abandonner, rappelle-toi que le Dieu sauveur, il a laissé sa royauté, il a laissé le monde divin. Et jusqu'à présent, il y a les apprentis athées qui ne croient pas ça. Au premier siècle, il y en a eu. Avec les gnostiques au deuxième siècle, les gens qui croyaient qu'il fallait plus de connaissances, le pélagianisme, etc., etc., toute l'histoire de l'Église en parle. Jusqu'à la Réforme. La Réforme, ils avaient d'autres responsabilités, combat des idées pour ramener l'Écriture, pour fixer encore et se repositionner sur leur doctrine, la déviation du genre humain. Notre Seigneur a tout laissé. Juste pour vous, juste pour moi. Et c'est ça la beauté de la foi. Les hommes demandent qu'un autre homme se déplace, qu'un système se déplace pour montrer la grandeur et la gravité du problème. Notre Seigneur a vu notre misère, sachant qu'on ne saurait se sauver, il a dû venir. Contrairement à ce que les hommes font, les hommes demandent qu'on vienne. Lui, il ne nous demande pas de venir, il vient à nous. Deux petites leçons pour terminer. Notre garantie n'est pas périmée en Christ. Parce que le terme grec qui traduit pour, dans le verset premier, c'est garantie. C'est comme une sorte de garantie. Les héros de la foi qu'on a tous les résumés dans Hébreux chapitre 11, c'est comme ils voient l'invisible à travers le visible. Jésus-Christ est l'invisible. Les yeux humains ne peuvent pas voir cette dimension-là. Dans les souffrances, nous, on ne souffre pas, à comparer à ces gens-là, bien entendu. Ce ne sont pas des gens qu'on nous présente pour qu'on fasse comme eux. Sinon, on va laisser toute la vie chrétienne. Retournons dans l'Ancien Testament pour comprendre l'histoire des héros de la foi. S'ils vivaient aujourd'hui, on inventerait peut-être dans le monde théologique le prix Nobel de la foi. Personne dans notre ère probablement l'aurait. Parce que ce serait le travail des hommes, les œuvres. Mais Christ a fait ce que nous, nous ne pouvons pas faire. Et par la foi dans l'avenir, qu'il n'avait pas vu par les yeux physiques, seulement les yeux spirituels, ils ont accompli des choses extraordinaires, on va dire des choses inhumaines. C'est qu'un humain ne peut pas réaliser. Mais la foi est plus grande que les tendances. La foi est plus grande que les associations réunies. La foi est plus grande que tous les grands chefs d'État du monde réunis. Quand tu es à genoux, Dieu change les choses. Tu ne fais pas de bruit, c'est dans le silence que Dieu parle. Reste devant Dieu, mais pas dans la paresse. On n'est pas sauvé pour se contempler. Je suis tellement content, je suis tellement sauvé, moi, là. J'ai tellement la foi, je reste chez moi. On est sauvé à travers cette communauté-là pour constituer cette communauté. L'Église, à chaque fois qu'elle se réunit par la foi. À chaque fois qu'elle pose une petite action, elle la pose par la foi dans l'humilité. L'Église, à chaque fois qu'elle proclame la parole de Dieu, elle la proclame par la foi. À chaque fois qu'une personne vient à Christ, c'est par la foi. C'est quoi le but de vivre par la foi? C'est pour plaire à mon Dieu. Laissons-nous pétrir par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui fait le travail en nous, pas nous. Ce n'est pas une vie de défi, quasiment de résignation que Dieu nous demande lorsqu'on vit par la foi. C'est un privilège de vivre par la foi. Oui, mais Félix, tous les problèmes que j'ai ces derniers temps, tu me dis que c'est un privilège. Ce n'est pas moi. La Bible dit que c'est un privilège. Parce qu'après, tu contemples les merveilles de Dieu. Tu dis, moi, je suis passé par là. J'avais mon CV à Hall Gatineau parce que je ne savais pas où se trouvait Gatineau. Après 4 ans, personne ne m'a jamais répondu, pas même une petite lettre, sauf cette école-là, Gatineau, qui m'avait répondu après 4 ans. Et je voulais y aller parce que je ne savais pas c'est quoi. Lorsqu'on m'a dit, Félix, tu sais, Gatineau, tu fais Ottawa, parce qu'au moins je connaissais Ottawa à l'époque. J'ai dit, ops. Un jour, le Seigneur m'a dit, cette fois-ci, je ose le dire parce que je le crois, et puis c'était vrai. Félix, tu vas à telle place. Papineau, Jean Talon, tu vas apporter ton CV là. Je dis, ah ouais. Depuis 2 semaines, c'est la seule chose qui était dans ma tête. Un lundi matin vers 9h, j'emmène mon CV. Oh, mais oui, la loi a changé. Maintenant, ce n'est plus les gens qui ont besoin de tout ce qu'ils ne devaient pas dire. Ils disent tout ça en ma présence. Je vous dis 4 ans. La même journée, j'ai reçu un appel. Depuis là, on m'a dirigé jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 20 ans. Et j'en ai d'autres. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. La foi, c'est rester tranquille, laisser Dieu agir. La foi, c'est de comprendre qu'on n'a plus la situation. Vivre par sa foi dans sa communauté, c'est être active, sans attendre un retour. Ah, j'ai fait, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais que tu n'aurais pas? Qu'est-ce que tu fais que tu aurais? On n'a rien, tout est en Christ. Ah, mais vous savez, c'est mon église. Mais oui, c'est ton église et puis? On est dans le déjà là et le pas encore. C'est ça la foi. Une foi que Dieu donne. L'Église est une communauté de foi qui se rassemble par la foi sous la bannière du Saint-Esprit. C'est la manifestation de la foi, je suis obligé de la lire pour vous. C'est la preuve de l'existence de Dieu dans le monde. Elle existe par la foi, elle fonctionne par la foi. Je fais une bonne pub, hein, parce que je répète le mot foi, foi, foi. C'est comme un mentard, hein, il faut répéter. Elle se réunit par la foi, elle agit par la foi, elle enseigne par la foi, elle proclame un message qu'on entend et on n'entendra nulle part ailleurs. Le Dieu sauveur s'est incarné. Il a laissé ce qu'il a de plus grand, de plus noble, de plus prestigieux pour venir jusqu'à nous. La foi ne se vit pas dans l'anonymat. Ah, mais je suis chrétien, moi, mais. Je suis chrétien. La foi se vit dans l'action. C'est ce que Jacques dit. On n'est pas sauvé. On n'agit pas pour se faire accepter par Dieu. Mais parce qu'on est accepté par Dieu, on est libre, on est content. Donc, on est là, on travaille avec ce que ça comporte. Dans l'attente, il y a les problèmes. Il y a des moments forts, difficiles à demander au pasteur. Ils vont vous dire, là, ah, c'est pas le dimanche matin. Oui, passe. Oui. Non, non, allez leur demander les lundis comment ça se passe. Pasteur Claude, les mardis, comment ça passe, les appels qu'on reçoit. Mais oui, la vie chrétienne, c'est un peu ça. C'est trop... Le temps d'attente, pendant que tu travailles, pendant que tu es en action, tu es sauvé, tu as la foi, tu aimes Dieu. Et puis tu reviens de la mission d'Haïti, de l'aéroport étant, on te dirige à l'hôpital Saint-Justine, fausse couche ta femme. Tu fais quoi? Eh bien, tu pleures. C'est ça. Ça fait partie du jeu. Tu es en colère, tu es fâché. Tu poses des questions. Pourquoi moi, Seigneur, j'étais en Haïti, tu vois. Et puis tu es là à l'hôpital Sainte-Justine, dans une petite salle. La même soirée. Selon qu'il est écrit, les justes vivent par la foi. Mon Dieu est omniscient. Je crois en lui, ça veut donc dire que c'est toute chose. Je termine dans 2 minutes. Toute la création dépend de lui pour exister. Je n'ai pas besoin de m'en faire. S'il est capable de créer toute la création, alors qui suis-je dans la création pour ne pas le faire confiance? Quand la confiance, ce n'est même pas moi, c'est lui qui me demande de me sortir de moi. Lui, il agit en moi pour se déposer en lui. Il est omniprésent, il n'a pas de problème avec le temps. Vous qui m'écoutez ce matin, peut-être vous avez pris la décision de tout abandonner, tout comme dans tout. Je nous rappelle que Christ est capable de tout faire. Votre problème qui paraît si gros pour vous, il ne saurait être plus gros que la création.
La parole de Dieu est valable pour les héros de la foi, elle est encore valable pour toi aujourd'hui. Ne bouscule pas le temps, ne défais pas l'agenda de Dieu pour t'ajuster. Tu n'as pas besoin de créer quelque chose, d'inventer quelque chose pour faire signer par Dieu. Il sait exactement où tu es, où est-ce que tu es rendu, il sait où est-ce que tu es dans ta réflexion. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il connaît l'avenir. Le temps n'est pas un problème pour lui. Nous, en grammaire, on a le passé, le présent, le futur, et puis notre vie, on l'organise en conséquence. Mais Dieu, tout est correct pour lui. Allez voir les exemples dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien aussi. Dans le Nouveau, beaucoup d'exemples, comment Christ réagit. C'est quelque chose, hein? On vient chercher le gars pour quelqu'un qui est malade. Lui, il continue sa vie comme si de rien n'était. Ah oui, mon frère est malade. Écoute, Jésus, Marthe te fait dire que ton ami est malade. Oui, ok. Et ensuite, il continue. Entre-temps, le cas s'est empiré. La fille de Jaïrus, etc., etc. Gloire à Dieu. Notre Dieu n'est-il pas grand? Rappelons-nous d'une chose. Il est venu jusqu'à nous. Il aurait pu demander à un prophète. Il aurait pu demander à un roi. Il aurait pu demander à l'un de ses grands. Lui, il est venu en toi. Parce que le dossier est urgent et d'une importance capitale. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce grand miracle de la foi. Merci pour ce prix que toi seul as payé. Tu nous comprends tellement, tu ne laisses pas notre destinée entre nos mains ni entre les mains d'un autre. Tu prends plaisir à nous bénir et tu nous organises, Seigneur Dieu, pour que notre victoire soit cachée en toi. Et comme tu as fait à ces héros, à ces hommes et ces femmes de foi, à travers leurs souffrances, à travers leurs péripéties, ils ont pu te voir. Et c'est parce qu'ils t'ont vu, ils ont pu rester et garder la foi, Seigneur. Ils ont vu plusieurs de leurs frères qu'on a éliminés, qu'on a tués, qu'on a assassinés, qu'on a méprisés. Mais ils ont poursuivi parce que leurs yeux de la foi étaient plus grands que leurs yeux physiques. Seigneur, apprends-nous à vivre et à te voir. Et non de nous contempler à nous voir. Parce que nous prenons tellement de place, on a du mal à te voir. Fais que nos yeux soient sur toi. Au nom de Jésus, bénis-nous. Rencontre ceux-là, surtout, qui veulent dévancer ton agenda. Garde-les en toi. Qu'ils aient cette patience de te voir agir, parce que tu n'es jamais en retard. Interviens au secours de chaque personne ici. Interviens au secours de notre Église. Interviens au secours de nos décisions, des décisions des dirigeants de l'Église. Fais quelque chose. Tu connais ce qui nous attend pour les 25 prochaines années, pour les 50 prochaines années. Mais toi, tu as tout, tu sais tout, tu es en contrôle de tout. Merci de nous tout donner en Jésus-Christ. Amen.